Donc, Jacob... Jacob.
Au moins, oui.
Salut, Jacob. Monsieur Beauchamp. Monsieur, bon, on commence. Bon, Raphaël, écoute, il y a un débat démocrate ce soir qui est crucial. Bernie Sanders est le meneur, mais comme tout meneur dans toute bonne course, ben il va être attaqué.
Ben ça devrait être ça. En même temps, c'est pas ça qu'on a eu la semaine dernière au débat à Las Vegas. C'était Michael Bloomberg qui avait servi essentiellement de piñata humaine, oui. Là. Donc la question se pose à savoir est-ce que Bernie Sanders cette fois-ci là, après qu'il a gagné les trois premiers États, tout au moins au niveau du vote populaire, va être le centre des attaques ce soir. Donc, débat en Caroline du Sud, très attendu, parce que la primaire de la Caroline du Sud est samedi pour être carrément décisive pour Sanders. Je dirais qu'il y a deux flancs le principaux sur lesquels Bernie Sanders pourrait risque de se faire attaquer ce soir. Le premier, c'est la question de l'ampleur des coûts associés à ces différentes promesses électorales qui ne sont pas nécessairement toutes chiffrées ou toutes claires. Et le deuxième angle dont on parle beaucoup dans les médias américains depuis à peu près 48 heures, c'est une déclaration qu'il a fait à l'émission 60 Minutes, qui a été diffusée dimanche soir au réseau CBS et qui a lancé tout un débat, toute une polémique autour du régime Castro et de l'attitude des Américains, disons, vis-à-vis Cuba. Donc, on écoute brièvement ce que Bernie Sanders a dit dans l'entrevue qui a été diffusée dimanche. On s'en parle après coup.
We're very opposed to the authoritarian nature of Cuba. But, you know, it's unfair to simply say everything is bad. You know, when Fidel Castro came into office, you know what he did? He had a massive literacy program. Is that a bad thing?
Ben, écoute, ce qu'il dit, c'est, regarde, on est contre la nature autoritaire du régime, mais c'est faux de dire que tout ce qui a été fait par Castro a été mauvais. Par exemple, il dit, quand il est arrivé au pouvoir, il a imposé un gros programme d'alphabétisme. Donc,
exact.
Il a éduqué son peuple. Je comprends même pas que ce soit controversé, cette affaire-là.
Écoute, dans des régions particulièrement importantes d'un point de vue électoral aux États-Unis, c'est-à-dire, d'abord et avant tout, le sud de la Floride, qui est peuplé en partie quand même assez considérable d'exilés, d'enfants d'exilés cubains, anti-Castro. Ce genre de rhétorique-là, là, je te dis, c'est extraordinairement controversé. Ce n'est pas un débat que les démocrates veulent avoir présent.
Mais Raphaël, enlève ça. Là. Disons que M. Sanders ne parle pas de ça.
Oui.
Ne dis pas que, écoute, Castro, l'État cubain a réussi à... éduquer ce peuple-là, hein, qui, sous la dictature soutenue par les Américains avant Castro, était très, très, très peu éduqué. Penses-tu vraiment que la Floride va voter pour Sanders anyway?
On s'en reposera la question. Et d'ailleurs,
je suis content
que tu me mettes sur cette voie-là. Parce que, à savoir si la Floride ou les autres États américains vont voter pour Bernie Sanders, pour le candidat démocrate, c'est une question qui, oui, se pose sur la base de ce qui est fait, de ce qui est dit par le candidat démocrate, que ce soit Bernie Sanders ou qui que ce soit d'autre qui va finir par remporter l'investiture de ce parti-là. Mais c'est surtout, comme je te le disais hier, une question de ce qui se passe au niveau de la Maison-Blanche, au niveau du président sortant. Les campagnes de réélection, ce sont d'abord et avant tout des référendums sur le président qui est en fonction. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Le coronavirus, qui vient de faire perdre, pour la deuxième journée consécutive, à peu près 1000 points. Là, on est autour des 800-900 points au niveau du Dow Jones. Tu as le président qui réagit de façon répétée sur Twitter, en public, en essayant de minimiser la situation. Et tu as même son conseiller économique principal qui est allé déclarer cet après-midi même, de façon, je te dirais, extrêmement périlleuse là, d'un point de vue politique, que le virus était contrôlé aux États-Unis. Autrement dit, que la menace était presque déjà éradiquée. Périlleuse parce que
Attends, ça, c'est Larry Kudlow qui a dit ça?
Exact.
Principale agence de santé publique des États-Unis, les CDC, oui. Les Centers for Disease Control, ont dit
le contraire.
Ils ont dit qu'il n'y a aucun scénario où les États-Unis vont pouvoir échapper au coronavirus.
Et c'est là que ça devient extrêmement dangereux.
Je pense que j'aime mieux croire le gars, l'économiste, là-dessus, plutôt que les microbiologistes.
Ben, c'est un petit peu ça le risque. Hein? Pas seulement économiste, mais personnalité médiatique, parce que M. Kudlow était ça également avant de servir à la Maison-Blanche. Donc, le risque est là. Le risque, c'est qu'on ait une situation qui, d'un point de vue de santé humaine, devient non seulement problématique, mais contredit complètement ce que la Maison-Blanche est allée dire publiquement et qui, en plus, pourrait avoir des répercussions extrêmement néfastes sur l'économie américaine.
Raphaël, où Trump, dans un budget proposé récemment, coupait les ressources là, en cas de pandémie?
Demandait de les couper,
ouais.
Mais là, aujourd'hui, il vient de demander à peu près 2,5 milliards de dollars au Congrès pour lutter spécifiquement contre le coronavirus. Donc, c'est vraiment vu comme une menace non seulement à la santé, mais surtout à la santé électorale du président. Puis, écoute, dans tout ça, j'ai pensé à ça depuis hier, puis j'ai eu un petit flashback. 1992. Je pense que, je me trompe pas, là, tu commençais à suivre la politique à cette époque-là. Tu vas te rappeler de la campagne de 92. On avait un candidat présidentiel pendant les primaires démocrates à cette année-là qui avait été affligé d'un scandale après l'autre, des histoires extramaritales. La question de est-ce qu'il avait essayé d'éviter de façon un petit peu sournoise la conscription pour ce qui est de servir au Vietnam.
Est-ce qu'il avait fumé du pot?
Est-ce qu'il avait inhalé en fumant du pot? Évidemment, ce candidat présidentiel-là s'appelait Bill Clinton. Et à la fin des primaires démocrates en 92, il avait à peine le soutien en fait, d'un Américain sur quatre. C'était le quart des Américains qui avaient eu une opinion favorable de M. Clinton, à un point tel, Pat, où Johnny Carson, tu peux te rappeler aussi Johnny Carson, animateur d'émissions de fin de soirée très connu à l'époque, avait fait la blague suivante. Avant même l'élection générale, à la fin des primaires démocrates, il avait dit, écoutez, on a déjà tellement de documents d'enregistrement de lettres prouvant les scandales de Bill Clinton qu'on peut déjà lui construire une bibliothèque présidentielle. Pourtant, tu connais la fin de l'histoire. Il est devenu président. Pourquoi? Parce que devant lui, en 92, qu'est-ce qu'il avait? Il avait un président sortant, en l'occurrence George Bush père, qui avait un taux d'approbation médiocre autour des 40 % et surtout, surtout, qui présidait une économie qui allait tout croche, qui était dans la toilette, disons-le très clairement. Là. Si c'est ça qu'on a cette année, je ne suis pas en train de faire une prédiction apocalyptique au niveau de l'économie américaine, mais si quelque chose comme le coronavirus, que personne n'anticipait il y a à peine un mois, vient dérailler l'économie américaine, je vais dire que ça peut être drôlement plus important que ce que Bernie Sanders a à dire sur Castro ou sur quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est vraiment important, je pense, à retenir, non seulement pour le débat de ce soir, pour les primaires, mais pour le reste de l'année électorale.
Mais je veux revenir 30 secondes là, sur Cuba et oui. Sanders. As-tu l'impression qu'à mesure qu'il y a de plus en plus de jeunes aux États-Unis qui n'ont pas vécu le communisme, qui n'ont pas eu la peur de la bombe, etc., c'est de moins en moins important ce que Sanders pense à propos de Castro?
Et du socialisme de façon plus générale. Oui. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que, notamment, son électorat est beaucoup plus jeune. La crainte du mot socialisme, et même à la limite du mot communisme, n'est pas la même pour les plus jeunes générations pour les plus vieilles générations.
Comprends-moi bien, là. Moi, je pense que la réponse de Sanders est parfaite. Tu peux pas dire « Hey, Castro, un super bon gars », comme il y a des Québécois ici là, qui pensent que c'est une excellente idée, le castrisme et le communisme. Là. On a vu ça, là. C'est toujours le fun, tu vas à Cuba, mais tu peux en revenir. Mais il a dit, écoutez, oui, c'est un dictateur, on est contre ça, mais il a éduqué son peuple, il n'y a pas juste du mauvais.
Il y aura sans doute à retourner à cette réponse-là ce soir.
Merci Raphaël, on se retrouve demain.
À demain.